Scrivens O, Scrivens A.
Pour des raisons techniques, je ne suis pas en mesure de vous proposer aujourd'hui malheureusement l'interview de la poétesse Antonella Fiori comme c'était prévu initialement. Mais rassurez-vous, vous aurez le plaisir de le découvrir la semaine prochaine. Cela dit, tout n'est pas perdu, puisqu'à l'occasion du prochain atelier d'écriture de Julie Lafaurie, le samedi 14 février prochain, à la Mostera, retrouvez aujourd'hui l'entretien avec la poétesse ensorceleuse qui a eu lieu en fin d'année dernière. Bonjour Julie.
Bonjour Marie.
Alors, je suis très heureuse de t'accueillir, notamment suite à la scène ouverte plurilingue qui a eu lieu mercredi dernier. Et du coup, j'ai eu une première question qui m'a traversé l'esprit. C'est pas la première fois, je crois, que tu organises ce type de scène ouverte. Depuis quand tu le fais, ça?
Alors, à la Grande Librairie Internationale, j'ai commencé fin septembre de cette année. C'est une scène mensuelle qui est organisé tous les derniers mercredis du mois. Et avant cette scène, j'ai eu l'occasion d'animer des scènes de manière plus ponctuelle, en fait, avec le scriptorium, par exemple, ou encore, il y a une vingtaine d'années, je faisais partie d'un collectif de poètes slameurs et on organisait des soirées et des scènes ouvertes, déjà. Et donc, à cette occasion, j'ai animé quelques scènes. Voilà, c'était mes premières.
Et la Librairie Internationale, le fait que ce soit plurilingue, c'est un choix?
C'est la Librairie Internationale qui m'a proposé d'animer des scènes ouvertes là-bas. Et comme le lieu est dédié à la littérature internationale et au plurilinguisme, le choix de faire une scène plurilingue s'imposait par rapport au lieu. Le fait est qu'il y a beaucoup de poèmes en français, mais j'ai des amis poètes et poétesses marseillais qui viennent lire des textes dans d'autres langues, alors que ce n'est pas leur langue maternelle. Et je trouve ça chouette de jouer à ce jeu. En fait, de jouer le jeu de dire des poèmes dans une langue qui n'est pas la nôtre, des poèmes d'autres auteurs et autrices que soi-même. C'est vraiment une scène ouverte à toutes et tous, toutes les langues. Il n'y a aucune contrainte, je dirais, de thème. Il n'y a pas non plus d'obligation de dire des poèmes écrit par soi-même, c'est très, très, très ouvert.
Mais ça reste de la poésie.
Et ça reste de la poésie, et puis de temps en temps, il peut y avoir des extraits de textes, type roman, type carnet de voyage, mais dans la forme de ces textes, dans l'oralité, dans la manière de les dire, j'entends, et je pense que le public l'entend aussi, ça résonne un petit peu comme de la poésie.
Mais je crois que tu organises d'autres événements, notamment, et dis-moi si je me trompe, des ateliers d'écriture, corps et voix.
Alors, j'ai mené un atelier d'écriture, c'était dimanche 23 novembre au studio théâtre intitulé « Nos ancêtres les sorcières », atelier d'expression écrite corporelle et vocale puisque on travaille l'écriture mais pas que. Donc c'est le premier sur ce sujet que j'animais et cette expérience m'a donné envie d'en mener d'autres autour de cette thématique des sorcières et des femmes. Donc voilà, je vais continuer de manière assez ponctuelle. Hein. Pour le moment, je ne pars pas sur un rythme régulier. Et auparavant, j'ai animé des ateliers d'écriture plus dans des structures, Donc, c'était plutôt, comment dire, des interventions sur des thématiques que je n'avais pas forcément choisies. Par exemple, l'année dernière, je suis intervenue à l'IRTS, Institut de recherche en travail social auprès d'étudiants, pour être éducateur, éducatrice spécialisée, assistante, assistante sociale. Il y a un module qui s'appelle « Lire, dire, écrire » qui leur est proposé. Et donc, ce sont des ateliers d'écriture créative. Je m'adapte en fait en fonction du public. Les ateliers, je les adapte en fonction du public. Et avec cet atelier sur les sorcières, je développe une thématique que j'ai choisie, là, pour le coup, et qui m'intéresse, qui m'interpelle.
Si tu portes du noir dans la vie, si tu sors le soir dans la nuit, si tu bois de l'eau chaude avec des fleurs dedans, si tu vois autre chose que la tête blasée des gens, tu es sûrement une sorcière, tu es sûrement une sorcière, tu es sûrement une sorcière, tu es sûrement une sorcière.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette thématique qui t'interpelle ? Est-ce que ça fait longtemps qu'elle t'interpelle, cette thématique ?
Oui, la féminité, la magie. Je dirais pas la sorcellerie, je parlerais plutôt de magie. C'est effectivement un sujet qui me travaille et me traverse, je pense, depuis très, très, très longtemps, et qui vient de mon arrière-grand-mère. J'ai connu mon arrière-grand-mère jusqu'à... Elle est décédée, elle avait plus de 95 ans, donc moi j'avais une quinzaine d'années, donc j'ai eu la chance de la connaître pendant 15 ans, et c'était une femme née à la fin du 19e siècle, très très, qui vivait dans un petit village qui était très très proche de la nature, qui faisait ses décoctions, ses infusions, qui s'est soignée toute sa vie uniquement avec des plantes, qui soignait les gens aussi. Pendant la guerre, elle allait faire des piqûres, elle jouait le rôle d'infirmière. Et je pense que c'est une femme qui avait une connaissance de la nature sauvage et de la nature humaine, peut-être, que je rattache pour moi à ce qu'on appelle aujourd'hui la sorcellerie. Mais c'est du profane, en fait. Quand je parle de sorcellerie, c'est profane. Il n'y a pas de sacré, il n'y a pas de... C'est plutôt une connaissance.
En fait, tu rapproches la féminité de la thématique de la sorcière. Pour toi, il y a un lien, il y a un pont.
En tout cas, les sorcières étaient des femmes. Et bon, il y avait des sorciers aussi. Hein. Mais je crois que, en tout cas au Moyen-Âge, les femmes pratiquaient en fait des soins, accompagnaient les accouchements, notamment. Et elles ont été peu à peu écartées de ces pratiques par la médecine moderne et qualifiées de sorcières à ce moment-là.
C'est vrai qu'au Moyen-Âge, les femmes ne pouvaient pas avoir accès à la connaissance. Et si jamais elles avaient accès à la connaissance, elles pouvaient être accusées de sorcellerie. Mmh. On reviendra aux thématiques qui t'inspirent plus particulièrement, mais j'avais envie de creuser ton rapport plus large à la poésie. Et depuis quand tu t'y intéresses ?
J'écris depuis, je crois que je sais écrire. C'est ma maman qui m'a appris à lire et à écrire. Et donc, toute petite, je me rappelle que j'avais une pratique d'écriture très ludique. J'écrivais des petites histoires, je découpais des magazines et puis je recréais d'autres magazines. Ensuite, à l'adolescence, j'avais un journal intime qui était plutôt sur des feuilles de papier, un petit peu dispersées. En fait, c'était pas vraiment un journal, j'écrivais sur des feuilles. Et d'ailleurs, un jour, mon père est tombé sur un de ses textes. Et il est rentré dans mon intimité et ça m'a beaucoup touchée, beaucoup affectée. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à cacher ce que j'écrivais et à écrire différemment. Au lieu de raconter à ma feuille de papier ce que je vivais au quotidien, j'ai transformé mon écriture pour en faire, pour qu'elle soit moins lisible. Je veux dire, moins lisible par rapport à ce que je vivais au quotidien. Et je crois que la poésie est apparue comme ça, petit à petit. Je me suis rendu compte que j'écrivais des vers, qu'il y avait des rimes, qu'il y avait des images. C'est vraiment venu petit à petit.
Alors là, tu avais 15 ans.
Oui, entre 15 et 20 ans, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais des formes, qu'il y avait des formes poétiques dans mon écriture. Ceci dit, ce que je voulais, c'était écrire des romans. Donc, en fait, je m'intéressais pas trop à la poésie, si ce n'est juste pour la lire. Et je connaissais que quelques auteurs classiques, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Prévert, etc. Et je lisais beaucoup, beaucoup de romans et très peu de poésie.
Et le basculement vers la poésie s'est fait à partir de quel moment?
Et le basculement, il s'est fait à Marseille. Donc j'arrive à Marseille, j'ai 27, 28 ans, je crois, et je cherche des ateliers d'écriture. Et je trouve un atelier d'écriture et de musique animé par un musicien marseillais qui s'appelle Jacques Dijkinou et qui avait lieu au Balthazar. À l'époque, le lieu s'appelait le Balthazar, c'est le Molotov aujourd'hui. Et là, je me retrouve avec un collectif, on est une petite dizaine, et chacun a déjà une pratique d'écriture personnelle. Donc, en fait, au cours des ateliers, on n'écrit pas vraiment, puisqu'on écrit en dehors, mais on met nos textes en musique et on organise des scènes ouvertes. Et à ce moment-là, disons que la forme, ça passe par la forme musicale, ça passe un petit peu par la chanson. Et du coup, la forme poétique se manifeste vraiment pour moi à ce moment-là. Et très rapidement, elle est du coup montrée.
Je suis celle qui joue, celle qui jouit, celle qui rit et ruisselle, qui vit. Je suis île, je suis aile, je suis ciel et nuage, soleil et orage. Je suis celle qu'on appelle la femme sage, celle qui sème l'amour sur son passage. Je caresse l'horizon de mes rayons ardents, effleure de mon souffle les lèvres des amants. J'inspire des mots doux aux amoureux transis, étouffe les flammes de la jalousie. Je sèche les larmes aussi. Je suis île, je suis aile, je suis ciel et nuage, soleil et orage. Je suis celle qu'on appelle la femme sauvage, celle qui sème le trouble sur son passage. Je danse sur les braises du désordre pour faire monter la fièvre du désir. Je fous le feu aux poudres, j'aime jouer avec la foudre. Oui, j'ai le diable au corps, la passion dans la peau et le sang chaud. Je brûle et je brûle encore, je ne crains pas la mort. Je suis l'envie inassouvie. Je suis île, je suis elle, je suis l'étincelle, la flamme éternelle.
Alors, moi, j'en reviens à ce que tu disais par rapport à tes premiers récits poétiques, ton journal intime poétique. qui en fait était ce que tu vivais au quotidien, mais de façon indicible.
Oui.
Et c'est comme ça que tu définirais la poésie ?
Indicible ? Non. Au contraire, c'est à dire, à partager, à déclamer la poésie. Mais c'est une parole intime. Voilà. C'est comme ça que je la définis. C'est une parole intime. Et quelquefois, qu'on peut garder pour soi. Parce que c'est écrire, pour moi, c'est une mise à distance. Ça permet d'exprimer des émotions, des sensations, des expériences. Et le fait de les écrire, on les met à distance, on peut les relire et puis comprendre parfois certains cheminements de sa pensée. Il y a des textes que je n'écris que pour moi. Je ne peux pas les partager. C'est trop intime.
En fait, j'entendais par indicible le cheminement de la pensée qui n'est pas limpide à la lecture, autant que lorsque tu lis un roman, etc. J'entendais plus le okay. terme indicible, sans se cacher, si tu veux. Est-ce que ça fait partie pour toi des caractéristiques de la poésie ?
C'est une écriture de l'intime, la poésie, qui parfois peut être partagée, qui parfois reste pour soi, qui n'a pas vocation forcément à être comprise, effectivement. Et là, on rejoint l'indicible. Je me rappelle, un jour, je fais lire un poème à ma sœur, et elle me dit « Je trouve ça très beau, mais j'ai rien compris. » Et je me suis dit « C'est pas grave. » Il n'y a pas besoin de comprendre, juste ressentir. Qu'est-ce que ça fait ? Et des fois, ça ne fait rien. Il y a des gens qui peuvent ne pas être touchés par certains mots ou par des poèmes. Ce n'est pas grave. C'est d'abord important pour soi de l'exprimer, en premier lieu.
Et qu'est-ce qui te décide à l'offrir au monde, à le donner à lire ou donner à écouter ? Qu'est-ce qui te décide ? Quels sont les critères, entre guillemets, je pense que le mot n'est pas tout à fait approprié, mais tu vois ce que je veux dire.
Oui, alors c'est cet atelier-là dont je parlais d'écriture et de musique il y a 20 ans qui me permet, qui me donne envie de partager ce que j'écris. Le fait aussi que ce soit dans un cadre collectif, ça c'était très réconfortant, je dirais, rassurant. Toute seule, je ne sais pas si j'y serais allée, toute seule. Là, on était ensemble, en fait, et on organisait des événements ensemble, même si chacun et chacune prenait la parole de manière individuelle, je dirais. Et alors, à ce moment-là, je prends du plaisir. Je me rends compte juste que je prends du plaisir à être sur scène et à dire mes poèmes à haute voix et à voir aussi les réactions des gens qui écoutent. Et je prends du plaisir aussi à entendre d'autres poèmes, à en découvrir. Donc, le plaisir donne envie de recommencer.
Alors, on en vient directement à une question que je voulais te poser à la toute fin. Mais puisque tu en parles de la poésie que tu dis sur scène, moi, j'ai eu l'impression, pour t'avoir vu à plusieurs reprises, que tu scandes avec une manière, qui t'est bien propre. Et moi, j'y vois quelque chose de l'ordre du mystique, même si tu disais que tout était profane dans la sorcellerie. Moi, j'ai l'impression que tu es comme un chantre qui tu ne déclames pas, tu véhicules quelque chose. On a l'impression que ça transperce les auditeurs.
Merci, ça me touche beaucoup ce que tu dis, ça me donne des frissons même, en vérité. Quand j'écris certains textes, hein, c'est pas systématique, mais quand j'écris et quand je dis, j'ai parfois effectivement l'impression d'être dans une forme de transe. Et c'est quelque chose qui est là malgré moi, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché ça. C'est là. Et je laisse C'est comme s'il y avait une énergie qui me traversait de la tête aux pieds, des pieds à la tête, qui va au-delà de moi-même. Et mon corps n'est plus qu'un canal, et ma voix aussi. Et du coup, je laisse ça me traverser. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'émotions. Avant, quand c'est des textes personnels, je sens que j'ai beaucoup d'émotions. Du coup, j'essaye de laisser cette émotion, en fait, me traverser.
Mais j'en reviens aussi à ce que tu disais tout à l'heure. Tu écrivais de la poésie que tu gardais pour toi. De la poésie qui n'avait pas forcément vocation à être dite. Et puis la poésie pour laquelle vraiment la voix est essentielle. C'est à l'instinct comme ça que tu décides que tel texte peut être dit et d'autres non.
C'est après les avoir écrits que je me dis celui-ci... je le garde pour moi, ou celui-ci, j'ai envie de le partager. Ouais. C'est après les avoir écrits. Et puis, il y a des textes, oui, il y a ça aussi. Il y a des textes, je les écris à un moment T, et je les garde pour moi pendant des semaines, des mois, voire des années, et il y a un moment donné où je me sens prête à les partager. Ça peut évoluer dans le temps. Bon, après, j'ai aussi un petit carnet où j'écris des réflexions, et ça, c'est que pour moi.
Donc, j'allais te poser une question, à savoir comment ton écriture a évolué, mais quelque part, si des années après, tu ressors un texte et que tu es amené à le lire, j'ai pas envie de dire déclamer, c'est qu'il n'y a pas forcément une évolution dans son écriture ?
Je sais pas. Ce que j'ai remarqué ces dernières années, c'est que quand j'écris, je me dicte à moi-même, je dis ce que je vais écrire. C'est comme si je me dictais à moi-même, je chuchote, je marmonne ce que je vais écrire. Je cherche, ça passe vraiment par l'oral. En fait. Donc, y a toujours ce lien avec la parole. La parole, l'oralité. Et je cherche les mots en les disant à voix haute. Et je cherche le rythme en le disant à voix haute, en le répétant à voix haute, ou basse, mais en tout cas, il y a du son qui sort.
Donc finalement, est-ce que pour toi, la poésie est vraiment quelque chose de physique et de corporel ?
Oui.
Et du coup, avec sur quel support écris-tu ? Stylo en main ?
Depuis quelques années, j'écris essentiellement sur ordinateur, parce que je peux utiliser mes deux mains et mes 10 doigts. Alors qu'en écrivant avec un stylo et un papier... j'utilise que ma main droite, en fait. Quand j'étais plus jeune, je regrettais de ne pas avoir appris à jouer du piano. J'étais fascinée par cet instrument et la manière de le jouer. Et j'ai réalisé qu'en écrivant sur mon ordinateur, je pianotais. Et donc, je retrouve ce geste-là.
Et tu as l'impression que ça change quelque chose ? Ça décuple le plaisir d'écrire, ou les sensations
Oui, et il y a aussi, je trouve que c'est plus pratique d'écrire sur un... Parce que j'écris dans le désordre, en fait. Donc, sur un ordinateur, je peux écrire des mots, des phrases, des textes, et après, je les replace dans l'ordre que je veux. Et si je fais ça, ça peut m'arriver dans des ateliers d'écriture, auxquels je participe, où je ne suis pas animatrice mais participante. Là, j'écris avec feuilles et stylos. Et là, mes textes, c'est des gros brouillons, il y a des ratures partout, il y a des flèches, etc. Ça devient très compliqué à relire, en fait. Alors qu'en écrivant sur l'ordinateur, cette possibilité de manipuler les mots, les phrases, de les placer dans l'ordre que je veux. Je peux garder aussi, je garde beaucoup, je garde les brouillons, par exemple, etc. Je fais beaucoup de copier-coller, mais je garde un petit peu de traces du cheminement de l'écriture vers le texte final. Alors, bon, c'est jamais fini, mais en tout cas vers le texte où je me dis, bon, ben là, je m'arrête là et je vais passer à autre chose.
Et est-ce que tu as une moyenne de temps passé par texte ou c'est très variable ?
C'est très variable. Il y a des textes qui sortent d'Angers et qui, pour lesquels je vais passer un quart d'heure dessus, 20 minutes. Et il y a des textes qui mettent des semaines, des mois, des années, voire des années. J'ai des textes comme ça et ça dure. C'est très rare les
fulgurances.
Les fulgurances, c'est ça. C'est très rare. Oui.
Mais l'écriture est une discipline quotidienne, hebdomadaire?
Non, j'écris quand j'ai envie. Quand j'ai envie et quand c'est là. En fait, j'écris parce que j'ai une phrase ou une idée qui me tourne dans la tête. Et tant que je ne l'ai pas couchée sur le papier, tant que je ne l'ai pas notée, cette phrase, elle continue à tourner. Et c'est en commençant à noter ces premiers mots, ces premières phrases, que le reste arrive. Donc, tant que je n'ai pas commencé à écrire... je n'ai que le début d'un texte, par exemple. Et ça se fait petit à petit. Et ça se fait des fois, hop, j'écris 3 mots, 4 mots, je laisse reposer, je m'y remets le lendemain ou une semaine après. Ou des fois, ce que je fais aussi, c'est j'oublie, je commence ces textes, je les oublie et je retombe dessus par hasard sur mon ordinateur. Et puis je les reprends, je les continue. C'est vraiment très anarchique. J'ai aucune méthode.
Est-ce que tu aurais quelques qualificatifs pour parler de ton style ?
Je sais pas. Franchement, je sais pas.
Alors,
je peux pas dire. Si toi t'en as, dis-moi.
As-tu des mentors qui t'inspirent ?
Oui, oui. Prévert. J'adore Prévert parce qu'il a une écriture très simple et à la fois très profonde. Il écrit des textes accessibles à des petits enfants. On l'a tous étudié à l'école primaire. Sauf que quand on se relit ces textes à l'âge adulte, il y a des dimensions qui vont plus loin que ce qui apparaît premièrement. Je me nourris aussi aujourd'hui, depuis quelques années, beaucoup d'écriture contemporaine, d'écriture féminine. De poètes et de poétesses que je rencontre, que je côtoie. J'ai lu beaucoup quand j'étais... Vraiment, ça a commencé pour moi par les classiques, hein, Baudelaire, Rimbaud, les surréalistes. C'est un peu ce qui a commencé à me titiller.
Et justement, là, tu parlais des autres poètes et poétesses que tu étais amené à fréquenter. Or, tu animes une émission de poésie qui s'appelle Poésy in the City. Et la question que j'avais envie de te poser, j'imagine ou pas, enfin, je veux dire, j'imagine, et peut-être que je me trompe, que tu peux être influencée par ces invités. Et est-ce que tu te sens suffisamment poreuse pour être traversée par la poésie de certains, certaines, et de t'en enrichir ? Est-ce que tu peux décrire ce processus ou pas ?
Oui, et je le fais. Alors, j'évite de le faire avec des poètes et des poétesses que je connais, que je rencontre, mais régulièrement, je vole des vers à d'autres poètes et je les inclus dans certains de mes poèmes. La chanson, en fait, c'est plutôt les chansons qui m'inspirent des poèmes. Ah, et puis je pense aussi à Gerasim Luka, où certains de ses poèmes m'ont inspiré des poèmes que j'ai écrits un petit peu à la manière d'eux. Voilà. manière de caresser Luca. Je suis effectivement très poreuse. Je fais attention quand même parce qu'il y a un côté, comme j'ai dit, j'ai parlé du fait de voler des vers. Mais moi, je vois ça un petit peu comme un clin d'œil,
un hommage.
Exactement. Voilà, c'est pas des choses que je m'approprie, c'est plutôt, il y a certains vers qui sont tellement bien dits, enfin écrits, et quand on les dit à l'écoute, c'est tellement beau que je me sens incapable de faire autrement que de les reprendre, tout simplement.
Alors, tu parlais de musique, est-ce qu'il t'arrive de d'écrire en musique ?
Oui. Ça oui, des fois je me fais des playlists sur des thématiques si je veux écrire. La thématique qui m'habite, par exemple la sorcière, je vais chercher des musiques sur cette thématique, je me fais des playlists et puis j'écoute. Je peux écouter en écrivant, je peux écouter en dehors de l'écriture, mais la musique... m'inspire énormément. La musique et la chanson française.
Alors, si on en revient à la thématique des sorcières, quel type de musique as-tu écouté ou écoutes-tu pour écrire des vers en lien avec cette thématique ?
Là, c'est cette question, je ne peux pas répondre. Enfin, c'est compliqué.
Ok,
c'est, pas de problème. C'est trop... Ouais. Là, parce que là, c'est encore un sujet, je suis dedans, là. Je n'ai pas de distance, tu vois.
Et en dehors de la sorcellerie ou des femmes, tu as d'autres thématiques de prédilection ?
Oui, l'enfance et la région où j'ai grandi, le Périgord. C'est pour moi une source d'inspiration très, très puissante. La nature, les légendes du Périgord, ce que j'y ai vécu dans mon enfance, avec ma famille, avec mes ancêtres. Ça, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup et sur lequel j'écris régulièrement. Il y a des textes en lien avec le Périgord et mon enfance qui reviennent.
Est-ce que finalement, quand tu parles de la région de ton enfance, de tes ancêtres, tu ne laisses pas par l'écriture une espèce d'empreinte, une marque qui pourrait se transmettre aux générations suivantes ?
Oui, c'est ça. Je suis issue d'une famille où il n'y a pas d'artistes, hein, c'est une famille de commerçants essentiellement. Agriculteur, l'artiste n'a pas sa place dans ma famille, donc j'ai décidé de l'apprendre, de l'occuper envers et contre tout. Et effectivement, c'est une manière pour moi de témoigner et d'exprimer un monde que j'ai vu, que j'ai vécu, que j'ai senti. Et qui peut-être peu à peu disparaît. Enfin, je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'ancien, en fait. De l'ancien, mais très vivant, très vivace. Et que je souhaite effectivement perpétuer. Que je ne veux pas voir disparaître. Et l'écriture, c'est une manière de le maintenir en vie. Et puis de le partager... à d'autres qui ne connaissent pas ces lieux, ou à mes enfants qui n'ont pas grandi là-bas puisqu'ils sont nés, ils ont grandi à Marseille. Il y a quelque chose effectivement de l'ordre du témoignage et de l'envie, du besoin, de la nécessité de laisser une trace qui serait une trace écrite, parce que je peux faire des photos aussi, hein, mais... Voilà, j'ai besoin de passer par les mots.
Qui dit trace écrite dit éventuellement publication.
Oui.
Est-ce que tu n'as pas été publié à la connaissance ?
Je n'ai pas de recueil publié, très peu de poèmes publiés en revue parce que je n'ai pas concentré mon énergie et mon temps sur cette direction. Vraiment, ce qui m'anime et ce qui me plaît, c'est d'être là, dans l'espace, dans le temps et de la déclamation. L'organisation aussi, hein, j'aime bien me qualifier de passeuse de poèmes, par exemple, à travers l'émission radio, à travers les scènes ouvertes. Ceci dit, j'ai un projet de publication avec une structure éditoriale. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui parce que c'est encore en gestation, je dirais, mais il est fort possible qu'il y ait une publication dans les mois à venir.
Super. Eh bien, écoute, je ne vois pas ce que moi je pourrais rajouter comme question. Tu m'as beaucoup apporté, enrichi. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter?
Je te remercie de m'inviter et de me donner la parole. D'habitude, c'est moi qui, qui interview des poètes et des poétesses et je suis ravie d'occuper l'autre place, en fait.
Alors quand même, avant de se quitter, j'aimerais bien que tu me lises quelques textes.
Oui. Ben justement, je parlais du Périgord, de mon enfance, de mes ancêtres et... Ben, je vais partager un texte sur ce sujet que j'ai intitulé « Ancêtres ». Ancêtres, en verlan, je l'écris « être sans », S-A-N-G. Je suis du peuple des forêts et des étangs aux eaux moirées. J'ai traversé les millénaires, les pieds ancrés dans la terre. Mon père est un chêne vert, ma mère une rivière. J'ai des racines très anciennes, irradiées des cieux, en pluie camailleux, puis enterrées, un peu rouillées. Le sang qui suinte dans mes veines est un peu bleu, un peu terreux, un peu ferreux. C'est la sève vermeille de mes ancêtres, née de lignées châtelaines et champêtres, sang de vilaines, manants, brigands et paysannes, mêlée à l'âme et la bravoure des chevaliers, des troubadours, des dames de cour. Je suis du peuple des forêts et des falaises aux grottes ornées. Depuis la nuit des temps, nous vivons en communion avec la nature et l'univers. Nous courons avec les loups, les lions, les taureaux, les bisons et les cerfs et dansons sur la croupe des chevaux sauvages dont nous avons gravé les corps dans la pierre, des cavernes exhumées du fond des âges. Les aigles, les éperviers et les faucons escortent nos voyages célestes au gré des circonvolutions terrestres vers les esprits invisibles qui veillent à l'équilibre et à l'harmonie des forces fragiles de la vie.
Est-ce que tu as envie d'en déclamer un second ? Ou celui-ci te paraît le essentiel et...
Oui, j'ai envie d'en dire un autre qui est beaucoup plus ancien et qui d'ailleurs, je parlais du fait de mettre beaucoup de temps à écrire voilà, le texte que je vais dire entre le moment où j'ai commencé à l'écrire et le moment où je l'ai terminé et où je l'ai dit, il s'est passé peut-être presque 10 ans et un accouchement et un enfant. Et ça, c'est très important parce que dans l'écriture, il y a une forme de... Je lis ça à la grossesse, à l'accouchement. Enfin, j'ai l'impression de retrouver un petit peu ce processus, la gestation, la difficulté à faire sortir le texte. Et aussi, une fois que le texte il est terminé, il ne nous appartient plus. Il appartient aux personnes qui l'entendent, qui le lisent. Et le laisser vivre sa propre vie. Donc ce texte s'intitule « Naître ». Il y a plusieurs manières d'entendre ce mot. Un jour, un soir, une nuit, à l'aube avant de se coucher, un jour, un soir, une nuit, une femme a donné la vie. Un jour, un soir, une nuit, la vie s'est levée et s'est mise à marcher sur la terre rouge, jaune, verte de ses ancêtres qui l'ont vue naître. Naître, tous les bébés vous le diront, c'est dur. Naître ou ne pas être est une question obscure. Naître dans la nuit et sa douceur, naître dans le bruit et la douleur, naître des entrailles de l'histoire, ou bien naître que le fruit pur du hasard. Un jour pourtant, il faut partir. Loin d'un dieu, loin d'un maître, loin des tyrans et faux prophètes, fuir la misère, l'oppression, les tortures, les persécutions, passer au travers des tirs, des bombes et des canons qui font couler le feu et le sang sur le sol en ébullition. Entre chaos, Big Bang, guerre et révolution, sur quelle terre, sur quelle terre, sur quelle terre trouver la paix après dissolution. Naître dans la nuit et sa douceur, naître dans le bruit et la douleur, naître des entrailles de l'histoire, ou bien naître que le fruit pur du hasard. Et un matin, la vie s'envole. Au-delà de l'univers, au-delà de l'au-delà, la matière redevient poussière et va nourrir la régénération de l'esprit toujours en mouvement qui balance les vivants entre harmonie et anarchie, symphonie et cacophonie au gré des vents fulgurants qui soufflent dans la galaxie. Naître dans la nuit et sa douceur, naître dans le bruit et la douleur, naître des entrailles de l'histoire, ou bien naître que le fruit pur, si pur, du hasard.
Merci.
Merci. Tout à l'heure, je parlais de vol, de voler des vers dans ce poème. Voilà, je me suis inspirée d'un chanteur français peut-être que certains reconnaîtront le vert. J'ai pas envie de dire qui ni quoi.
Mystère et bout de gomme. Et tout de même, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous donner quelques indications sur cet atelier écriture corporelle et vocale?
L'idée de l'atelier, c'est d'aller chercher, de proposer aux participantes d'aller chercher des figures féminines inspiratrices, qui peuvent être des figures familières, familiales ou imaginaires, mythiques. Et en passant, donc l'écriture, c'est le moyen d'expression, mais pour amener à l'écriture, je propose des pratiques plus corporelles, de type méditation. Et après la phase d'écriture, il y a une phase de restitution au groupe. Et avant cette phase de restitution, je propose des pratiques corporelles et vocales pour mettre le corps en mouvement. Voilà. Avant l'écriture, la méditation, c'est pour squeezer l'intellect, en fait, pour déconnecter un petit peu l'intellect et puis revenir à soi, à l'intérieur de soi. Et avant la restitution orale, qui va passer du coup par le corps, des pratiques donc corporelles, type danse pour revenir à son corps et puis le laisser juste bouger comme il a envie de bouger, parce que je ne propose pas des chorégraphies, hein, c'est vraiment laisser le corps danser comme il le sent, comme il en a besoin à ce moment-là.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marie.
À bientôt.
À bientôt.
Comme dit en tout début d'épisode, l'atelier Amour Sorcière se déroulera de 13h30 à 15h30 à l'occasion de la Saint-Valentin à la Mostera, 84 rue de Lodi. Il sera suivi d'une scène ouverte. Le lien d'inscription se trouve dans le descriptif écrit de l'épisode. À très bientôt et merci à Radio Galère.